en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des Longitudes lui rend donc un bel hommage avec ce cycle de conférences. Suzanne Desbarba, astronome à l'Observatoire de Paris, a été directrice du département d'astrophysique fondamentale de l'Observatoire de Paris. Passionnée d'histoire de l'astronomie, elle se consacre depuis quelques années à l'exploitation des archives de l'Observatoire de Paris. En guise d'introduction à ce cycle de conférences, l'intervention de Suzanne Desbarba portera sur les différents travaux que Giovanni Domenico Cassini a effectués dans sa carrière. Retrouvez dès maintenant la conférence de Suzanne Desbarba qui s'est déroulée à la Fondation Del Duca.
Vous avez donc sur l'écran, d'une façon un petit peu résumée, les 5 thèmes qui font l'objet de cette réunion. Géodésie, distance Terre-Soleil, rotation de la Lune, lumière zodiacale, Saturne, chacun reconnaîtra ses petits. Jean-Dominique Cassini, comme l'a dit Pierre Bauer, est arrivé à l'Observatoire de Paris en avril 1669 et comme vous le voyez sur la gravure qui est à droite, l'Observatoire est encore en construction. À ce moment-là, il ne peut donc pas s'y installer alors que c'était tout à fait prévu. Mais au mois de septembre 1671, il va pouvoir monter par cet escalier monumental que certains d'entre vous ont monté ce matin, et il apporte dans ses bagages des objectifs de grande longueur focale, et celui que vous avez à droite a 11 mètres de longueur focale. Il est d'un des 2 maîtres de ce type de travail de Rome, il est de Campanie celui-ci. Louis XIV va venir le 1er mai 1682 visiter l'Observatoire de Paris et vous avez là un extrait de la page que Cassini a rédigée dans son livre d'observation. La visite de Louis XIV n'a pas duré très longtemps, il n'avait pas l'air très au courant de ce qu'était l'astronomie et les problèmes de la navigation, tandis que Jacques II d'Angleterre, qui était logé par son cousin Louis XIV à Saint-Germain, lui est resté environ 3 heures, il a tout vu, tout discuté. Dans les 2 cas, ils ont vu le planisphère terrestre que certains d'entre vous ont vu ce matin. Ce planisphère terrestre rend compte des travaux qui sont faits de par le monde, pour lesquels les astronomes, les voyageurs, envoient des résultats et des observations. À l'époque, c'est la géodésie qui va se développer beaucoup sous l'influence de Jean Picard, né en 1620 et qui fait partie des premiers membres de l'Académie des sciences. Il va construire ou faire construire, mais je crois que à l'époque, les astronomes mettaient beaucoup la main à la pâte, un quart de cercle du type de celui que vous voyez là, un quart de cercle à 2 lunettes, une qui est fixe et l'autre qui lui sert d'alidade. Et il va, dans son programme, en 69, mettre la triangulation, une partie de la triangulation de la méridienne de France. Vous voyez quelque part écrit « Observatoire de Paris » ou « Observatoire » plutôt. Et puis vous voyez que le point nord est près d'Amiens et le point sud près de la Ferté-Alais. Qu'est-ce que vont lui donner cette triangulation? Les dimensions de la Terre, puisqu'il va mener en même temps des observations de caractère astronomique. Il observe les azimuts de sa triangulation avec le quart de cercle. Là, vous ne voyez pas le quart de cercle utilisé pour une opération de triangulation, mais pour une détermination de différence d'altitude. Et pour la partie astronomique, il utilise un secteur dont le limbe n'a que 18 degrés et qui a, alors en unité moderne, 3,25 m pour le rayon du secteur. Ce sont donc les premières opérations de caractère géodésique. Mais Picard va mourir en 1682, au mois d'octobre, en n'ayant pas eu le temps de faire plus pour la carte du royaume de France qu'avait demandé Louis XIV et Colbert aux membres de l'Académie des sciences. Cassini, qui a compris que c'était important de satisfaire le roi et Colbert, va partir immédiatement en 1683 en mission, et vous avez là, nous partîmes, etc., pour cette opération. L'opération va être très rapidement arrêtée parce que Colbert, à la fin de 1683, meurt. Et l'opération n'aura pas lieu sous Louvois, qui n'est pas partisan des travaux plus ou moins théoriques, mais elle le reprendra avec Pontchartrain en 1700. Et vous avez là le journal du voyage de la Méridienne, qui va reprendre en 1700 et 1701. La figure de droite vous donne la première page, qui est de l'écriture non plus de Cassini I, mais de Jacques, son fils, Cassini II, et c'est Cassini IV qui, en haut à gauche, a écrit « Écriture de Jacques Cassini ». Et c'est le début, nous partîmes de Paris, etc., etc. Alors, le journal se poursuit. Vous avez, par exemple, une illustration des différentes directions pour lesquelles des observations étaient menées. Vous avez à droite, nous partîmes de Castres, etc., etc., et la triangulation, qui a été arrêtée à Bourges en 1683, reprend et va les conduire jusqu'au Canigou. Dans ce petit journal de voyage, on trouve des descriptions de villes. Pour le moment, je n'ai pas identifié de quelle ville ou de quel village il s'agit pour ce joli petit dessin que je n'ai pas résisté de vous montrer. Dans ces opérations, on a besoin de déterminer la longitude. Et c'est pourquoi, à gauche, vous avez un portrait de Huygens et vous apercevez vers sa main gauche une petite horloge à balancier, je pense, d'après la facture et la dimension, que c'est celle que Coster a fabriquée pour lui aux Pays-Bas. Et vous savez que c'est grâce aux horloges de Huygens et avec les éclipses des satellites de Jupiter que Cassini 1 sait prédire avec une bonne précision qu'on peut déterminer des longitudes terrestres. Et vous voyez, par exemple, une illustration du journal sur lequel on voit le repérage du méridien de l'Observatoire de Paris. Voilà la méridienne complète qui résulte de l'opération qui ne pourra, dans la partie nord de Paris, à la frontière nord, se poursuivre qu'avec, grâce aux guerres de Louis XIV dans les Flandres, et ce sera fait après la mort de Cassini, qui est mort en 1712, ce sera fait par son fils Jacques. Le deuxième sujet que je voulais vous illustrer, c'est celui de la distance Terre-Soleil, qu'on représente soit sur la distance ST que vous voyez, soit sous la forme de l'angle oméga, qui correspond au petit angle sous lequel, depuis le Soleil, on voit le rayon de la Terre. Et vous savez qu'un certain Kepler, j'ai rappelé l'équation, qui permet de passer des données correspondant à un objet au Soleil ou à n'importe quelle planète. C'est ainsi que, pour la première détermination de la distance Terre-Soleil, l'Académie des sciences va envoyer Richer à Cayenne, et tandis que Cassini et ses collègues vont observer sur le méridien de Paris. Et vous avez à gauche la partie où Richer écrit « Je pense que vous serez content des résultats que je vous envoie pour la détermination de la distance du Soleil », et à droite, la première page de la publication de Cassini. Vous savez qu'après, on va utiliser pour cette détermination les passages de Vénus. Alors, je n'ai pas résisté à vous montrer cet après-midi, d'abord, une image que nous avons, qui est une très belle peinture illustrant les passages de Vénus que nous avons vus en Grande-Bretagne en 2004. Et puis, voilà que ce passage correspond à celui de 1639, qui n'a été observé que par deux personnes en Angleterre, Horrocks et Crabtree, et que les astronomes français et tous les astronomes européens se sont préparés pour les passages de 1761 et 1769. Alors, ce n'est pas le passage de 1769 que vous avez là, c'est le passage tout récent que j'ai eu la chance de voir, j'ai eu la chance de voir les quatre contacts. Alors, voilà quelques images qui m'ont été envoyées hier et que j'ai ajoutées dans ma communication. Il y a eu quelques nuages, vous le voyez un peu, j'étais à Tromsø, dans le nord de la Norvège. Voilà encore un passage intermédiaire, puis on se rapproche et voilà le troisième contact. J'ai pu attendre là également le quatrième contact, si bien que je suis très satisfaite de moi. Grâce à mon voyage en Angleterre et mon voyage en Norvège, j'ai vu deux fois les quatre contacts du passage de Vénus sur le Soleil. Autre sujet, la rotation de la Lune. Alors cette carte d'Hévélius montrant la libration de la Lune, qui est un effet de sa rotation, qui est un sujet qui sera abordé tout à l'heure. Les astronomes, Hévélius en tête, avaient pris l'habitude d'observer énormément les éclipses de Lune. Et là, vous avez une observation d'éclipse qui est dans le registre d'observation de Cassini, en notant à leurs horloges les instants où les pics de la surface de la Lune étaient éclipsés, en espérant obtenir une meilleure valeur de la détermination de l'instant de l'éclipse qu'ils observaient à partir d'un calcul fait pour tous ces accidents. C'était là une des raisons pour laquelle Cassini a mené des observations. En fait, aucun de ces dessins n'est de Cassini. Ceux qui sont venus ce matin ont bien vu qu'il ne faisait pas de très beaux dessins dans ses registres. Ces dessins sont de Leclerc et Patigny, et c'est Patigny qui va tirer la carte de la Lune que vous pouvez voir, qui est une carte actuellement exposée à l'Observatoire de Paris, celle de 1679. Le phénomène de libration de la Lune était tellement répandu à l'époque que vous avez en haut une citation extraite des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, publiée en 1687. Vous voyez bien la description de la libration. Et en bas, vous avez quelques éléments, mais vous en aurez peut-être plus tout à l'heure. En particulier, la dernière phrase que j'ai extraite de ce texte qui est de Cassini II, « Ces mouvements irréguliers en apparence ont donné lieu à mon père de juger que cette libration de la Lune, etc., etc. » Autre sujet, la lumière zodiacale, que Cassini observe en 1683, au printemps 1683, et vous avez là deux citations, la première est du mois de mars, la deuxième est du 14 avril, où il dit « on voit la lumière extraordinaire, etc. etc. » Il n'est pas seul à observer cette lumière qui les intrigue. Il est avec Facio de Duillier, qui est un Genevois, et qui est à ce moment-là en séjour à l'Observatoire de Paris. Les observations continuent. Vous avez encore là, je crois, un extrait de ce qu'il voit. Et puis, Facio de Tuilier, après avoir observé avec un quart de cercle, avec des horloges aussi, on trouve son nom dans les registres de Cassini, va adresser à Cassini donc une importante correspondance. Et vous avez là les deux premières pages de la première page qu'il écrit à Cassini en 1685. Et à la suite des observations qu'il a poursuivies, Cassini, en 1685, va publier un texte. En tout cas, il y a l'imprimé, est à l'Observatoire de Paris, en 1685. Et quand on regarde avec attention, le volume entier porte la date de 1693. Et à partir de 1686, les observations, la typographie change. Donc, je soupçonne que Cassini avait préparé ce manuscrit qui était déjà composé quand il a continué ses observations de la lumière zodiacale, ce qui fait que très souvent, on date la publication de Cassini de 1693, qui groupe des observations, effectivement, 86, 87, etc. Cassini a été plus rapide que Facio de Duillier, mais il n'a pas trouvé la bonne explication. Il pensait que cette lumière qu'il avait observée non seulement le soir au coucher du soleil, mais aussi le matin au lever, était due à des exhalaisons du soleil. C'est le mot qu'il emploie dans certains textes. En fait, Facio de Duillier donnera la bonne explication et vous aurez des détails tout à l'heure. Voilà quelques représentations qu'on trouve dans des publications de l'Observatoire de Paris. Et je crois qu'il y a encore là un extrait, il me semble. La clarté extraordinaire, voilà des exemples de textes qu'on trouve dans les registres de Cassini. Pour Saturne, monsieur Pierre Boer vous a dit que Saturne, vous en aviez beaucoup entendu parler pour ceux qui étaient venus à cette conférence. Je me suis limitée à vous mettre comme illustration un extrait du Journal des savants dans lequel on peut lire. Il y a une observation de monsieur Hevelius dans le Journal d'Angleterre qui répond à la première de ces deux phases, la phase de l'anneau, mais comme il n'a pas marqué ni la bande de Saturne ni la distinction qui se voit dans l'anneau, on a sujet de juger que les lunettes dont il se sert sont beaucoup inférieures à celles de l'Observatoire royal. Et vous avez la représentation de l'anneau où il voit deux zones, une zone qui est de couleur argent bruni et une zone qui est de couleur argent mat, d'après ce qu'il écrit. La présentation suivante, c'est ce qu'on trouve dans les registres de Cassini à différents endroits. Et je vous laisse lire la bande de Saturne, etc., etc., la bande, la paroi intérieure, vous lisez en bas toujours les bandes. Sur celui-ci, il semble que l'obscurité qui suit la longueur de l'anneau dans la partie antérieure soit une bande obscure comme celle qui est, etc. Et qu'entre les deux bandes solaires, il y en ait une claire. Alors, il voit cette ligne claire et il continue à en parler. Le premier, non, la bande de Saturne dans la même situation qu'hier. Mais il n'y a pas la bande blanche observée hier. Il y en avait une assez mince au-dessus de la bande obscure, selon, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bande blanche ? Peut-être que tout à l'heure, nous aurons quelques explications. Et je crois que je termine là mon exposé avec cette vue de l'Observatoire de Paris du temps de Cassini, où vous voyez que les objectifs de courte longueur focale ont un tuyau, et vous voyez qu'avec cette lunette sans tuyau, le dessin représente une observation de la Lune, on voit la lumière cendrée et le croissant, et que par ailleurs, vous voyez très nettement les objectifs qui sont placés sur la tour de Marly, installée à l'observatoire. Et si vous regardiez avec attention ou avec un compte-fil, vous verriez que au-delà de la tour de Marly, ce qui est représenté, c'est Jupiter et ses quatre satellites, et que si vous regardez ce qui est représenté à partir de l'objectif qui est placé sur la terrasse supérieure de l'observatoire, c'est Saturne et les cinq satellites qu'on connaît alors. Le premier est découvert par Titan, comme ça a été dit, et les quatre autres. Titan, le premier découvert, et le plus gros d'ailleurs, découvert par Huygens, et les quatre découverts par Cassini en 1671 pour Jappé, 72 pour Rhea et 1684 pour Tétis et Dionée. Et je pense maintenant que grâce aux collègues qui ont accepté de vous raconter et de vous parler de ce qui se passe à notre époque dans ces domaines, vous en savez autant que moi.
Canal Académie vous proposait cette retransmission de la conférence de Suzanne Desbarba, astronome à l'Observatoire de Paris. Elle intervenait à l'occasion de la journée scientifique 2012 organisée par le Bureau des Longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini. Retrouvez en fin d'article le diaporama qui accompagnait cette présentation. Je vous invite à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Académie dans la rubrique « En colloque ». Sachez que les conférences du Bureau des Longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.